Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Sophie de Menton qui a déjà commencé à parler, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Michel Taube, bonjour, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Ergun Toparsian, bonjour, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès, bonjour.
Bonjour.
Et Mehdi Ourawi, essayiste, spécialiste du discours politique, bonjour à vous.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Attaque terroriste de Rambouillet, que pouvait-on faire? Pouvait-on l'éviter? Que faire pour aller au-delà des discours et des gesticulations de plus jamais ça, de nous battrons contre le terrorisme? On voit qu'on est impuissant face à ce mode d'action. Rentrée des classes, est-ce bien raisonnable? C'est la question que posent un certain nombre d'épidémiologistes et qu'on peut se poser quand même au vu des chiffres qui ne semblent pas vraiment baisser. Le plateau est assez haut malgré tout. Et puis Sarah Limi, faut-il changer la loi? On en parle avec vous. Coup de cœur, coup de gueule. Ergun, commençons avec vous. C'est d'actualité, ça s'est passé cette nuit.
C'est ça, Florian Zeller. Doublement oscarisé ce soir, le réalisateur français. Une très grande fierté qui fait du bien, je pense, en cette période morose, après Thomas Pesquet, notre astronaute. Encore un quadra français qui réussit à l'international avec un film qu'on attend avec impatience, qui devrait arriver en salle en juin en France.
En juin, The Father. Et effectivement, il a remporté
son premier long métrage.
Premier long métrage, Oscar du meilleur, meilleur scénario et puis
meilleur
acteur pour Anthony Hopkins. Exactement. Pour qui il avait écrit le rôle. Donc, effectivement,
sur mesure, apparemment.
On peut effectivement être content. Mehdi, coup de gueule?
Alors, dans les coups de cœur, il y a aussi évidemment le fait que il ne faut pas oublier, il y a Thomas Pesquet, mais aussi Omar Sy qui a explosé les compteurs de Netflix il y a quelques semaines on a quand même des créateurs en France qui sont quand même assez époustouflants. Gros coup de gueule ce matin parce que il y a quelques semaines sur cette même antenne, je me félicitais de l'adoption de la loi sur les langues régionales.
Ouais.
Dans des conditions qui étaient plutôt apaisées, avec un consensus républicain qui était assez intéressant. Et je saluais à ce moment-là une forme de maturité démocratique de la France qui était capable de prendre en considération et d'accorder du respect à ces langues régionales. Il se trouve que moi, je suis au Pays Basque, comme certains d'entre vous le savent. On parle basque avec mes enfants, on parle basque avec beaucoup d'amis. Mes enfants sont dans une école immersive où ils parlent basque avec leurs amis, etc. Et donc, pour nous, c'était évidemment quelque chose d'important, mais je crois que pour le pays, c'était bien aussi de comprendre qu'on peut avoir plusieurs identités et que justement, l'universalisme, c'est être capable de conjuguer en paix ces différentes identités. Et là, patatras, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que le cabinet de Jean-Michel Blanquer a téléguidé une soixantaine de députés pour déposer un recours au Conseil constitutionnel. Alors, moi, c'est parfaitement légal, il n'y a aucun problème, c'est même constitutionnel, c'est la prérogative des parlementaires de demander au Conseil constitutionnel de vérifier si une loi est bien conforme à la Constitution. Là où c'est plus gênant, c'est de voir que c'est le cabinet même du ministre qui va essayer de jouer une espèce de revanche un peu malsaine. À l'époque, d'ailleurs, le cabinet du ministre était très opposé à cette loi, et ce sont les parlementaires, en discutant avec eux, d'ailleurs, quelque chose qui est assez rare en France, c'est-à-dire des gens vraiment de tous horizons qui avaient été capables d'aboutir à un consensus, de créer quelque chose de positif autour de ces langues régionales. Et là, on retourne à une conception qui est une conception un peu datée, un peu triste, qui consiste à croire que parce que les gens parleraient une autre langue, au Pays Basque, ici, il y a plein de gens qui parlent 2, 3, 4 langues. Ça arrive très souvent de parler espagnol, parler français dans la rue. Parfois, on entend 2, 3, 4 langues en même temps. Il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent… Voilà, ça pose pas de difficultés particulières. Le français est présent partout. Tout le monde, globalement, maîtrise le français. Petit détail, il se trouve que, par exemple, les écoles immersives au Pays Basque ont les meilleurs résultats aux examens nationaux français républicains de l'école publique, ensuite, quand ils vont dans les écoles publiques, parce que ce sont des enfants qui, parfois, sont plus ouverts culturellement et ont eu l'habitude de jongler avec un certain nombre de concepts et avec l'idée de la traduction, etc. Et donc, croire comme ça, de façon un peu datée, un peu ancienne, qu'il faudrait que le français soit imposé un peu par la force, à mon avis, est quelque chose d'un peu triste et où c'est un peu un recul. Et je trouve que Jean-Michel Blanquer, qui parfois fait des choses intéressantes sur l'école, que moi je crédite d'être un ministre qui aime les enfants, qui a envie que chaque enfant s'épanouisse et trouve une émancipation culturelle, je trouve ça un peu triste de vouloir essayer de jouer cette espèce de match retour très jacobin, mais moi je suis pas contre l'égalité jacobine, mais le jacobinisme à l'ancienne qui croit qu'il faut niveler tout le monde et effacer toutes les identités, y compris les identités régionales, à mon avis fonctionne plus très bien et est un peu contre-productif.
Bon, bah c'est un coup de gueule. Je ne connaissais pas, effectivement, je n'avais pas vu ce recours. Donc, c'est intéressant de l'évoquer. Michel Taube, vous, c'est un coup de gueule également ?
Alors, moi, c'est un coup de gueule parce que Jean Castex a été à Roissy hier pour contrôler la mise en œuvre de la politique de quarantaine des personnes venant de 5 pays, Brésil, Inde et quelques autres. Alors, je me demande pourquoi il y a été, puisqu'il a dit en même temps que, d'après ses informations, les variants brésiliens et indiens seraient en recul. Donc, pourquoi a-t-il perdu du temps à s'y rendre s'ils sont en recul, ce qui, à mon avis, est très...
Est-ce qu'il est faux ? J'ai entendu ce matin quelqu'un qui faisait du fake news checking, pour parler bien anglais. Et en fait, on est passé de 3,7 à 4,5 en taux de circulation. Donc, c'est totalement faux, ce qu'il a dit.
Mais alors, incroyable. La source, c'est le Parisien aujourd'hui en France. Et je trouve ça tellement symptomatique même pas du double discours. D'un côté, le discours de communication politique du gouvernement et de l'autre côté, la réalité. À Roissy, il y a une zone qu'on appelle la ZAPI. C'est le lieu où les personnes qui sont en transit d'un aéroport à l'autre sont isolés le temps de savoir s'ils sont porteurs du Covid, le temps de faire un test si jamais ils ne l'ont pas fait, et aussi des personnes dont les compagnies aériennes refusent qu'elles reprennent l'avion lorsqu'elles sont en transit parce que justement elles viennent d'un pays où il y a une tension sur le Covid. Il y a des dizaines de personnes qui sont dans cette zone que l'on appelle la ZAPI. Cette zone est gérée par des salariés de la Croix-Rouge qui, ce week-end, ont exercé leur droit de retrait en disant que pour aller travailler là, elles prenaient trop de risques parce que les personnes qui y sont isolées pendant quelques jours, beaucoup refusent, écoutez bien, refusent de se soumettre à un test de dépistage. Et elles ont le droit d'y refuser. Donc, elles font un recours devant le juge administratif qui est le juge de la circonscription de Bobigny, préfecture Seine-Saint-Denis. Et qu'est-ce qui s'est passé vendredi ? 18 des 52 personnes passées devant le juge ont été libérées par le juge, alors qu'on ne sait pas si certaines d'entre elles ont le Covid.
Ouais.
Franchement,
non, mais c'est vrai, Michel. Il y a depuis le départ une gestion dans les aéroports qui est au-delà de l'imaginable. On a été les premiers à pas avoir, enfin les derniers à avoir des tests antigéniques. Il faut quand même rappeler que la semaine dernière,
là, c'est pas, Sophie, là, c'est pas d'avoir les tests ou pas.
Oui, là, en plus, ça s'aggrave. Oui, je suis d'accord. Il y a les zones.
On ne peut même pas
contrôler.
Oui, je sais. Oui. Et puis, en plus, on est incapable de mettre à l'hôtel des gens en quarantaine, de surveiller les quarantaines. On n'est pas capable de contrôler. Et il y a, la semaine dernière, 7 passagers en provenance qui venaient de Roissy, qui avaient été testés soi-disant négatifs ou pas testés, on n'en sait rien, que la Belgique a refusé. Les 7 étaient positifs.
Ouais.
Je veux dire, nous sommes une passoire. Je ne comprends pas. Augustin de Romanet, que j'ai interpellé là-dessus, qui est le président des aéroports de Paris, ne fait que suivre. C'est là qu'on s'aperçoit de l'état profond. Je veux dire, il suit vaguement les consignes de l'ENA, enfin de l'ENA, pardon, le lapsus.
Oui, c'est intéressant, le lapsus.
Le lapsus, il suit les consignes de l'État. Il n'a pas osé, il n'y avait pas les masques au début. Il y avait... C'est sans arrêt un retard énorme et une inefficacité terrible. Et c'est dans tous les domaines. On est dans le même système pour les tests, pour les écoles, pour les autotests, pour les écoles. On a refusé aux entreprises de s'équiper. Ouais. On est en retard sur tout. Ouais.
Mais là, sur Roissy, c'est quand même ce que raconte Michel, c'est quand même absolument ahurissant.
Horrible. Oui, c'est mais enfin, on est président de la République, Valérie, vous et moi.
Oui.
À la seconde, on écoute Sud Radio.
Oui, voilà.
Qu'est-ce qu'on fait? On téléphone immédiatement, on dit vous me réglez ça tout de suite. C'est pas possible.
Michel.
Non, le problème là, c'est pas le retard. Là, on n'est pas en retard. Là, on n'exerce pas les moyens dont on dispose.
Alors, comment on fait?
C'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Et le pire que tout, c'est que le Parisien a sollicité le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, l'aéroport de Paris. Personne n'a voulu leur répondre. Alors, vous avez d'un côté des agents de la Croix-Rouge qui exercent leur droit de retrait. Alors, je les comprends, je les respecte. Mais enfin, quelque part, moi, ça me gêne un petit peu quand même aussi. Parce que la Croix-Rouge, ça n'est pas n'importe quelle organisation. Ce n'est pas une association... loi 1901 comme les autres. Elle a un statut quasiment semi-public. Donc, quelque part, moi, ça me gêne qu'il y ait ces droits de retrait. Mais enfin, ceci dit, je respecte...
Vous êtes face à des gens qui ne respectent pas...
Absolument. Non, mais le résultat, Valérie, c'est que ce sont les policiers...
Encore une fois.
...qui se retrouvent seuls à gérer ces personnes. Mmh. Donc, c'est quand même... Je le maintiens. Moi, ça me pose un problème... Quand même, ça m'interroge. En tous les cas, je me permets de m'interroger. Et je demande par la voix de Sud Radio que le ministère de l'Intérieur nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, combien de personnes, qu'il confirme bien que ces 18 personnes ont été libérées, qu'on les recherche, qu'on essaie, qu'on leur fasse un test, parce que ces personnes qui viennent de pays étrangers, si elles ont le variant indien, si elles ont le variant brésilien, enfin, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que dans une semaine, 15 jours, on aura de nouveau cette contamination qui va redoubler. Je pense que c'est vraiment très grave.
Allez, on va marquer une pause, c'est l'heure du journal et on se retrouve dans un instant. Il y aura votre coup de gueule, Sophie, et puis on va revenir sur l'attaque terroriste à Rambouillet, la rentrée des classes et Sarah Halimi. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, avec Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, et vous êtes également fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoire de Progrès. C'est quoi Territoire de Progrès?
Territoire de Progrès, c'est un parti politique qui fait partie de la majorité présidentielle qui a été fondée par Olivier Dussopt et Jean-Yves Le Drian.
D'accord.
Alors, je voudrais faire une toute petite réflexion de passage. Il y a une espèce de nouvelle mode dans le vocabulaire. On parle des territoires. Alors, c'est un territoire. Pardon, est un mot qui est intéressant, mais on parle des territoires français au lieu de parler des régions. Il y a un territoire qui est la France, et je trouve absolument lamentable. Maintenant, je suis sur le territoire de Vendée, où on est dans les territoires. Et je trouve que c'est un mot qui a perdu son sens et qui n'est pas intéressant pour les régions et qui dénote, je pense, une perte de sens.
Ouais. J'ai l'impression que c'est l'inverse. Je sais pas, peut-être Monsieur Wari nous dira un peu plus dans le discours politique comment est ressenti le mot territoire, mais c'est plutôt valorisant.
Pas pour tout, mais les territoires de France, je trouve pas ça valorisant.
Bon.
C'est le sentiment inverse.
Territoire, débat sur le mot territoire.
Bah, c'est surtout, non mais le problème qu'on a, Sophie, je suis désolé, c'est ça arrive de plus en plus souvent dans cette émission. Je vais être plus libéral que vous, ce qui c'est que malheureusement on sent le poids administratif de la technostructure. C'est un territoire, c'est
en et réalité voilà.
ça ne veut rien dire. C'est pas méchant, je le dis pas pour Territoire de Progrès.
J'ai compris.
Mais je crains malheureusement que ça s'inscrive dans une espèce de millefeuille administrative, une espèce de langue. C'est-à-dire qu'on n'est plus, en Vendée, on n'est plus en Alsace, on n'est plus au Pays Basque, on est dans les territoires. Ouais. C'est un peu le problème qu'il y avait eu d'ailleurs au moment de la création des nouvelles grandes régions. C'est-à-dire qu'en réalité, beaucoup de gens, alors nous, on a été plutôt épargnés parce que la Nouvelle-Aquitaine correspondait à quelque chose, mais enfin, beaucoup de gens considéraient quand même que le nom de leur région ne correspondait plus à rien.
Je viens du Grand Est.
Le mot terroir est un très beau mot.
Désolé, Valérie. C'est vrai. Michel, vous vouliez réagir?
Je suis obligé de réagir parce que comme mon accent ne l'indique pas, je suis alsacien et les Alsaciens ont réussi le tour de force, je ne sais pas si tous les auditeurs de Sud Radio le savent, que le 1er janvier 2021 est née la collectivité européenne d'Alsace.
C'est vrai.
Et justement, la région du Grand Est, création de François Hollande, n'avait pas de sens sur le plan historique, patrimonial, linguistique, etc., que les Alsaciens se sont littéralement rebellés et ont obtenu d'Emmanuel Macron la création, la recréation de la région Alsace, dénommée aujourd'hui Collectivité européenne d'Alsace. Et pour rebondir sur le coup de gueule de Mehdi Ouraoui, effectivement, moi je suis d'accord, on peut parler plusieurs langues et être excellent en français et un très bon français, ça, moi ça ne m'a jamais posé de problème, mais encore faut-il, avec l'enseignement d'une langue, épouser aussi les valeurs de la République française. Ce dont je ne doute pas pour les Alsaciens et les Basques, mais vous voyez ce que je veux dire.
Allez, on va parler de l'attaque terroriste à Rambouillet. Comment l'éviter ? Pouvait-on l'éviter ? Comment sortir de ces grandes déclarations de la République ne se laissera pas faire et que bah, malgré tout, cela arrive quand même à chaque fois. Rentrée des classes avec un plateau de contamination qui reste tout de même assez élevé. Et puis, Sarah Halimi, est-ce qu'il faut changer la loi ? Sophie, vous avez un... Alors, moi, je voulais juste, dans le prolongement de ce que disait Michel à propos, Michel Taube, à propos des aéroports et de ce qui se passe dans cette zone... Dans cette zone de transit, on a appris donc que les voyageurs qui arrivaient d'Inde étaient mis en quarantaine, quatorzaine, pendant 15 jours chez eux. On a vu des reportages à la télévision où la police nationale va contrôler les gens, un petit peu à la manière de ce qui s'est fait dans d'autres pays, où on vous appelle de façon impromptue. Sauf que les gens ont le droit de sortir entre 10h et midi. Donc, je trouve ça complètement aberrant. Ça veut dire que le virus se repose entre 10h et midi et qu'il n'est pas contagieux. Enfin, soit, comme ça a été fait ailleurs, les gens sont dans des hôtels, on vous livre à manger, c'est contraignant. Mais au moins, si on a une suspicion ou si on veut que les gens soient contenus, on ne les laisse pas sortir entre 10h et midi.
Alors, c'est vrai, Valérie, avec une toute petite nuance, c'est qu'on s'aperçoit quand même de plus en plus, et je pense que ce sont quand même des gens qui doivent être un peu responsables, qu'en plein air, la contamination, si vous êtes tout seul au milieu de votre rue, et que c'est vraiment en plein air, elle est minime. Il faut vraiment quand même le dire. Le plein air,
mais
c'est...
vous contrôlez pas les gens.
Je suis d'accord. Rien ne les empêche d'aller dans la seule boulangerie ouverte. Il y a quand même le plein air. Et puis la deuxième chose qui est incroyable, et on revient plus libéral que libéral, a encore des règles étatiques. Quand vous êtes en congé maladie, je déteste le mot congé, mais en arrêt maladie, dans votre entreprise, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous avez des droits de sortie. On n'a pas le droit de vous contrôler, vous avez le droit de sortie. Et on a reproduit le droit de sortie.
Oui, mais en face, on parle d'une pandémie, on parle d'une épidémie. Qui voulait réagir, Mehdi ?
Ce ne sont pas des malades, en plus.
Si je dois réagir à quelque chose, c'est à ce que Sophie vient de dire sur le fait qu'elle déteste le mot congé. C'est que quand même, il ne faut pas, en matière de maladie.
Non, c'est pas, personne ne parle de congé maladie, ce sont des arrêts maladie.
Tout le monde parle de congé maladie.
Non, mais je crois qu'il y a quelque chose dont on parle régulièrement ici, mais qui est une chose très intéressante, c'est le hiatus et le fossé qui existe. C'est même plus un hiatus, c'est un gouffre entre à la fois des déclarations gouvernementales qui sont des déclarations généralement martiales, c'est-à-dire nous sommes en guerre, nous prenons des décisions, le Conseil de défense prend des décisions, etc. Donc l'idée qu'il y a une espèce de pouvoir très efficace parce qu'il est très centralisé, parce qu'il est très concentré entre les mains de quelques-uns, qui serait plus intelligent que la masse, etc. Et la réalité du terrain, c'est-à-dire une forme d'impuissance, et malheureusement d'impuissance de l'État, impuissance évidemment dans les hôpitaux, parce que les hôpitaux ont été désarmés au fil de plusieurs décennies de détricotage des hôpitaux depuis des années, voilà, par les différents gouvernements successifs, mais aussi, on le voit bien, c'est là que le bât blesse, y compris du régalien, c'est-à-dire que y compris ce qui est censé fonctionner le plus efficacement et le plus, presque de façon brutale parfois, c'est-à-dire la police, l'armée, le pouvoir régalien qui est censé pouvoir mettre les choses en ordre, etc., même ça ne fonctionne plus. Et donc, je crois malheureusement que ça crée dans la tête d'un certain nombre de nos concitoyens, et à juste titre, une très grande angoisse, parce que on ne peut qu'avoir peur quand on voit que la principale force qui est censée protéger le pays est totalement désorganisée et souvent, malheureusement, désarmée par le pouvoir politique et par les décisions hiératiques et en permanence changeantes du pouvoir politique. Donc, je crois vraiment qu'il ne faut pas sous-estimer la très grande angoisse que ça peut créer dans la tête des citoyens. Ouais.
Michel Taube.
Alors, tout à fait d'accord, mais j'aimerais compléter ce que disait Valérie. De nombreux représentants syndicaux du monde de la police disaient ce week-end, avec fermeté, ils ne seront pas en mesure de contrôler le respect de la quarantaine par les personnes assignées à leur résidence. Et le deuxième point, c'est que vous n'allez quand même pas me dire que l'assurance maladie ou, par téléphone ou les policiers à 20h, 21h, 22h vont aller vérifier si les personnes en quarantaine ne reçoivent pas également. Il y a ceux qui sortent, mais il y a ceux qui reçoivent également. Et pour terminer, j'aimerais juste rappeler au Premier ministre et au Président de la République, surtout au Président de la République, qu'il a un ancien confrère, Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est membre du conseil d'administration du groupe Accor. Comment est-ce qu'ils n'ont pas encore réussi, comme c'est le cas dans de nombreux pays, à ouvrir les hôtels de Roissy pour que les personnes soient mises en quarantaine dans ces hôtels-là, et que cela facilite.
Mais ils l'ont proposé, Mercure a proposé, proposé les hôtels.
C'est vraiment scandaleux, c'est absolument scandaleux.
Alors,
c'est
inadmissible. Ergun Toparslan.
Il y a un sujet, c'est également la responsabilité individuelle qui est importante là-dedans. Il ne faut pas perdre de vue que les voyages internationaux, sauf cas impératifs, ne doivent pas avoir lieu. Les voyageurs doivent faire attention à ça, doivent faire leurs tests PCR et les porter avec eux. Les compagnies aériennes, au départ des voyages, doivent vérifier tout cela, ainsi que les pays de départ. Mais évidemment, le fait qu'ils arrivent à Roissy avec des situations et ils passent au travers des mailles du filet, c'est tout à fait déplaisant. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas vocation à avoir un policier, un agent administratif 24 heures sur 24 sur les personnes qui doivent être en quarantaine.
Non, mais vous avez la menace tout de même de savoir, ou le risque de sortir et d'être ces 1500 euros d'amende. Donc vous savez que vous pouvez être contrôlé, en principe vous vous tenez à carreau.
Mais... Voilà, donc c'est sûr que le risque zéro n'existe pas, il y en aura certains qui vont pas respecter ces règles-là. En tout état de cause, nous, la position de force qu'on doit avoir, c'est l'intransigeance en termes d'amende quand ces personnes seront contrôlées, et faire confiance malgré tout à nos concitoyens qui ont fait beaucoup d'efforts jusqu'à aujourd'hui. On a besoin de l'engagement de chacun pour sortir de cette situation malgré tout. Je pense que ça amuse personne d'être en quarantaine, de pouvoir encore respecter un confinement.
Ces deux heures me paraissent totalement absurdes et incohérentes. Soit ils sont malades, soit on les
ils sont
garde.
Pas malades, en principe.
Pas malades, non, mais soit ils sont en quarantaine par sécurité. Mais
soit il y a des consignes extrêmement strictes sur les
Absolument,
deux heures.
Absolument, mais c'est le en même temps. Sophie, rapidement, votre coup de gueule.
Oui. Écoutez, je suis très choquée par le bonus du patron d'Air France. Les Pays-Bas, on peut être chef d'entreprise et très sensible à ses excès. Il a un bonus, d'ailleurs, que les Pays-Bas refusent. Il a quand même une prime de 2 millions d'euros, ce qui est invraisemblable, alors qu'il y a des salariés de KLM qui ne sont plus salariés d'ailleurs. On menace de plus aider la compagnie aérienne, mais quand même, cette prime en action de 2 millions d'euros accordée aux plus hauts dirigeants d'Air France, alors que la société elle est complètement maintenue à flot par les aides de l'État, c'est qu'il y a un millier de travailleurs de KLM qui ont soit perdu leur emploi, soit fait des sacrifices, etc. Le président a renoncé un peu à accepter de baisser son salaire, il y a un moment où je pense que dans les entreprises de cette taille... Attendez, parce qu'il a renoncé...
C'est la dérive gauchiste de Sophie.
Voilà, on a un Mehdi...
J'ai une dérive éthique, au contraire.
Voilà, on a un Mehdi qui est libéral et une Sophie qui devient...
Excusez-moi, c'est pas ce qu'on m'a dit au début.
En plus, il faut quand même savoir qu'il a renoncé à certaines primes, etc., qui sont mises de côté pour après. Donc, je me bats pour les entreprises. Je pense qu'on ne les laisse pas vivre, etc. Mais il y a des boîtes de cette taille. Comment est-ce que l'État peut accepter ça ?
Sophie,
Oui.
Là, pour le coup, vous prenez un cas particulier. On parle de 2 millions d'euros, qui est tout à fait choquant. Hein. Moi, je trouve ça absolument scandaleux quand on connaît l'état.
Mais c'est scandaleux de la part de tout le monde, hein, de l'état, des actionnaires, de tout le monde.
Non, mais quand on connaît l'état d'Air France KLM et quand on connaît les montants qui sont réinjectés et qui ont été réinjectés à deux reprises, et notamment par la reprise des dettes de l'entreprise. Avec en plus un montage extrêmement compliqué demandé par la France à la Commission européenne, etc. Donc, la prime est absolument indécente.
Mais c'est aux Pays-Bas, hein, Sophie.
Mais attention,
les aides françaises, etc.
Sophie, je vais juste compléter. C'est que, il y a quand même, là, depuis un an et demi maintenant, avec le début de cette pandémie, c'est que moi, je me souviens que dès le début de la pandémie, on a su, parce que ça, pour le coup, le choc économique a été anticipé très vite, on a su que toute l'économie allait être mise à l'arrêt et qu'il y aurait un choc pour les entreprises qui serait extrêmement violent, qu'on serait obligé de tous mettre la main à la poche. Et à cet égard, le gouvernement a quand même injecté dans l'économie des dizaines et des dizaines, jusqu'à 200 milliards, dit-on, mais en tout cas, des montants qui sont quand même absolument faramineux d'argent public, avec quand même une chose extrêmement choquante dès le mois de juin 2020, donc l'année dernière, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ont renoncé à leurs dividendes, mais d'autres n'y ont pas renoncé. Et donc, il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui savaient très bien...
C'est un autre sujet.
Elles allaient être confrontées à des difficultés absolument majeures économiquement et qui, quand même, ont versé à leurs actionnaires des dividendes absolument monstrueux pour certains. Et notamment, je pense notamment à certaines entreprises du domaine de l'assurance où on savait très bien que les assureurs seraient sollicités par un certain nombre d'entrepreneurs et je pense notamment aux restaurateurs.
Parce que les restaurateurs se sont fermés pendant 10 ans, l'assurance ne peut pas payer.
Sauf que l'assurance ne peut pas payer, mais enfin, on n'est pas obligé de se verser des dividendes pendant que les restaurateurs français
crèvent. Juste une phrase pour répondre à ça. La question des dividendes est une autre question. Les entreprises vivent de l'argent des actionnaires. Si on ne verse plus du tout de dividendes nulle part, les bourses s'effondrent. Nous tenons encore dans le monde avec des bourses, même si on n'aime pas les bourses, qui fonctionnent et c'est compliqué.
On ne va pas faire ce débat-là.
Pas si à gauche que ça, finalement.
On ne va pas faire ce débat-là, ce bonus de 2 millions d'euros.
J'étais sur le point du bonus, qui est scandaleux.
Allez, on se retrouve dans un instant. Attaque terroriste à Rambouillet, une de plus, ressortissant tunisien, qui a donc égorgé une femme policier. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, on a pris un petit peu de retard. Mehdi Ourawi, Ergun Toparslan, Michel Taube et Sophie de Menton sont là. Un ressortissant donc tunisien de 36 ans, arrivé clandestinement en France en 2009, titulaire depuis 2020 d'une carte de séjour temporaire, a tué à coups de couteau, on peut dire égorgé, une agente du commissariat de Rambouillet. Comme à chaque fois, tout le monde, tous les politiques montent au créneau, le ministre de l'Intérieur qui dit nous ne laisserons pas faire, la République est debout, etc. Sauf que, force est de constater qu'on est assez impuissant devant ce type de radicalisation qui semble assez incontestable quand on écoute ce que déclarait Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste. Ergun Toparslan.
Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur les mots et la force des mots que peuvent tenir les ministres, les ministres de l'Intérieur et le président de la République, parce que dans cette guerre, qui est une guerre totale, il y a une part de communication et c'est un terrain sur lequel ils nous attaquent constamment. Leur communication, les discours, les vidéos qu'ils font, ils sont constamment dans cette volonté de rabaisser la France. Et nous, on a besoin d'une réponse, de la prise de parole forte de notre président de la République, également de nos ministres, et surtout pour montrer qu'on est à côté de nos forces de l'ordre, mais également pour montrer à l'ennemi que, malgré leurs attaques, même s'ils arrivent à passer à travers les mailles du filet, on saura répondre, on va répondre, on cédera pas. Moi, j'ai envie d'entendre des discours qui disent aussi « on va gagner ». On va gagner, parce qu'on fait pas rien non plus. Il y a 35 attentats qui ont été déjoués depuis 2017. On améliore notre arsenal législatif, on améliore tout ce qui est les moyens de nos forces de l'ordre. Évidemment, ça suffit pas parce que eux, ils s'adaptent, ils font des radicalisations individuelles, des actions individuelles en traître par derrière. à une femme pendant la pause de midi, c'est la lâcheté la plus énorme. Il y en aura d'autres, ils vont continuer sur ce chemin-là, et nous, on doit tenir un discours, et en plus de soi, on doit accompagner un arsenal législatif et faire la guerre, comme on le fait sur tous les terrains, au Sahel, dans la zone syro-irakienne, sur les réseaux sociaux, sur notre territoire, sans relâche, et en tenant un discours fort avec des mots forts.
Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut répondre à leur communication, par une communication de force. Cela dit, le problème, c'est que le peuple français n'y croit pas, et que c'est effectivement, il n'y croit pas parce que c'est impossible de suivre des gens qui sont d'abord qui ont des bouffées délirantes, parce que alors ça, on y reviendra sur un autre sujet, mais même pour aller. Et quand vous dites qu'ils sont lâches, c'est pas forcément perçu comme ça, parce que les mecs, ils vont se suicider. Mmh. Il a regardé avant d'y aller des films en disant qu'il allait avoir le paradis, et ce sont des martyrs. Donc les martyrs ne sont pas a priori des lâches, malheureusement, ou en tout cas ils sont en tout cas sérieusement
c'est pas une guerre conventionnelle, quoi.
C'est pas une guerre conventionnelle, donc c'est très injuste de dire que on peut lutter contre ça. Je vois vraiment pas comment on peut lutter contre des individus isolés. C'est la pire des...
avec le renseignement, et il avait été repéré tout de même,
hein.
Il y avait surtout des équipes de police de proximité qui étaient vraiment sur le terrain au plus proche et qui arrivaient à capter des signaux faibles. Sauf que là, encore une fois, c'est assez spécifique à Rambouillet, il n'y avait même pas de signaux faibles, c'est par rapport à la radicalisation de
Absolument,
ce monsieur-là. Donc le travail qu'on peut faire, l'amélioration qu'on peut avoir sur cette proximité, sur cette capacité à capter des signaux faibles.
Oui, midi.
On a un petit désaccord, parce que c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de signaux faibles. D'ailleurs, les signaux faibles sont des signaux très intéressants quand on les regarde. Moi, j'invite tout le monde à aller lire l'article du journal Le Monde sur l'itinéraire du terroriste. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui s'est nourri quand même, notamment de tout le discours sur l'islamophobie. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, on ne peut pas, attentat après attentat, continuer à se raconter que les choses...
Donc on est responsable, c'est ça. La société française est responsable.
Valérie, excusez-moi, je me suis mal exprimé, ou vous avez mal compris. C'est que c'est quelqu'un qui a été abreuvé du discours qui dit que la France est islamophobe,
d'accord,
que les musulmans sont maltraités. Quand on regarde, Le Monde est allé décortiquer...
Abreuvé par qui ?
Est allé décortiquer les publications, notamment sur ses réseaux sociaux. Il publiait du Mediapart, il publiait des publications qui indiquaient que la France était un pays islamophobe. Et donc, à un moment donné, il faut aussi que les collaborateurs de l'islam politique rendent des comptes. Moi, je suis désolé, on ne peut pas aller de mort en mort, de Samuel Paty en Charlie Hebdo, d'attentats contre Ozar Hatorra, en attentat du Bataclan, et que systématiquement, des gens arrivent pour nous expliquer que le problème numéro un en France, c'est l'islamophobie. Moi, je suis désolé, ce que je vois bien, c'est que on a une partie de la classe politique aujourd'hui qui se tait et qui ne dit rien, parce qu'elle est gênée de dire les choses. On a là quelqu'un qui s'est radicalisé et qui s'est radicalisé à partir du discours, non pas des islamistes de Syrie ou d'Irak, mais qui s'est radicalisé à partir du discours d'un certain nombre de politiques français qui passent leur temps à raconter que nous vivons dans un pays qui déteste les musulmans.
Moi, je partage ce point de vue.
Alors que ce n'est pas vrai. Je trouve ça extrêmement dangereux.
Moi, je salue ce que dit Mehdi, et j'aimerais le compléter.
Michel Taube.
Pourquoi cet assassin a choisi une policière comme cible ? Parce que sur les mêmes réseaux sociaux, mêmes sources d'information qui ont nourri la haine de ce monsieur, il y avait aussi un discours permanent de haine des flics. Et c'est ça qui, moi, m'a choqué. C'est que, en fait, la haine des policiers, comme l'a dit un sociologue à la une du Figaro, qui disait que s'attaquer à un policier, c'est s'attaquer au symbole des mécréants. Mais qui ? Est-ce que les terroristes ont le monopole de la haine des flics ? Malheureusement, non. Vous avez aujourd'hui en France des dizaines ou des centaines de milliers de Français qui, tous les jours, sur les réseaux sociaux, nourrissent et entretiennent la haine des flics et le discours contre les policiers. Et donc, si cet homme a choisi un policier plutôt qu'une autre cible, c'est aussi parce que sur ses réseaux sociaux, non seulement il a cru qu'il vivait dans un pays islamophobe, ce qui est complètement faux. Moi, je voudrais rappeler cette une de Jeune Afrique qui ne passe pas pour moi, d'Assa Traoré, qui disait il y a 2 mois, les Arabes et les Noirs en France ne sont pas en sécurité. Quelle honte d'avoir dit ça.
Je suis d'accord.
Mais cet assassin, il a lu cette tribune, il a lu cette une de Jeune Afrique, il y a cru, il est convaincu.
Oui, c'est ça,
il est
exactement.
Convaincu de cela.
Exactement.
Et ce climat de haine de la police, qui veut dire en fait la haine de la France, il est constamment entretenu. J'ajoute, pour répondre à la question de Valérie, qui est effectivement la bonne question, pouvait-on éviter cela ? Alors évidemment, c'est très très difficile, mais on est en guerre. L'État, pour la lutte contre le Covid, a embauché avec l'assurance maladie des milliers de collaborateurs. Pourquoi est-ce que l'État, et j'aimerais savoir, depuis maintenant 5 ans, 10 ans, combien de personnes ont été embauchées pour surveiller les réseaux sociaux en permanence et être à l'affût de toutes les vidéos djihadistes et de tous les propos anti-français qui pullulent? Moi, j'aimerais savoir si l'État a été vigilant depuis que ce monsieur a assassiné une policière, savoir combien de Français sur les réseaux sociaux se sont félicités qu'il se soit payé un flic.
Voilà. Alors, on va continuer ce débat tout de suite après. On va continuer ce débat dans un instant et on rappelle que les autorités espagnoles avaient alerté les policiers, le gouvernement, d'une menace contre les policiers puisqu'Al-Qaïda promettait une récompense de 60 000 euros en bitcoin pour la mort d'un policier dans un pays occidental. Donc, est-ce que ces menaces sont-elles suffisamment prises au sérieux ? On en parle dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, nous parlions de l'attaque terroriste de Rambouillet. On va évoquer aussi le lien avec l'immigration. Ce matin, Vincent Trémolet dans Le Figaro évoque le fait que si Jamel G avait été expulsé du territoire en 2009 et en 2019, tout cela ne serait peut-être pas arrivé. C'est une question qu'on peut se poser. On a un auditeur, Luc, qui est en ligne avec nous. Bonjour Luc.
Bonjour Valérie, bonjour à vos invités.
Bonjour.
Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que j'interviens assez régulièrement chez André Berkoff, dans le détail de savoir qui attise la haine, qui fait ceci, qui fait cela. Je pense que, si vous me passez l'expression, ça a à voir avec les mouches, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Alors quel est le fond du problème ?
Le fond du problème pour moi, enfin, c'est pas le fond, c'est un des problèmes pour moi, c'est que tous ces actes reposent au départ sur un délit et plusieurs délits. Oui. J'ai été intervenu il y a quelque temps en face de Cédric Héroux à votre émission du matin.
Oui.
Et je lui avais dit qu'un jour il serait comptable de cela. Mm. En face de cela, vous avez le Conseil d'État qui lui a dit « mais c'est très bien, continuez ». Ce type est rentré, je parle donc de cet individu, ce type est entré clandestinement.
Oui.
D'accord. Premier délit. Oui. Il doit sa régularisation à la circulaire Valls, qui régularise les clandestins qui ont un boulot. Mais ce boulot, il a bien fallu que quelqu'un lui donne.
Ouais.
Moi, je travaille dans le bâtiment. On a des descentes tous les jours.
Ouais.
Et ça, c'est un délit quand même. Il y a bien un mec qui a donné du boulot à ce type et qui, après, a bénéficié de Valls. Quand je vois qu'un boulanger fait la grève de la faim pour qu'on régularise son ouvrier clandestin, on se fout du monde.
Mais c'est
ces gens-là qu'il faut taper. Il faut les matraquer. Il faut les matraquer. Ces gens-là qui sont responsables.
On ne peut pas matraquer quelqu'un qui se met en grève de la faim par solidarité pour son salarié.
C'est un délit, monsieur. C'est un délit.
C'est absurde.
C'est un délit.
C'est un geste d'humanité. C'est absurde.
Alors, non, monsieur, les gestes d'humanité qui débouchent sur
le monsieur, des gens qui veulent se lever à 4h du matin pour faire du pain dans les territoires éloignés de notre pays, il n'y en a pas énormément.
Alors, j'ai été en lien.
Vous êtes bien content qu'ils se lèvent à 4h du matin pour aller ramasser vos poubelles.
Oui, monsieur, je me lève aussi à 4h du matin pour être sur les chantiers.
Oui. Je voudrais faire un petit point, si vous permettez, parce que je dirige un mouvement qui s'appelle Éthique et j'ai été aux côtés de la CGT pour réagir très violemment à une opération qui s'était passée il y a quelques années. Il y avait les travailleurs sans papier qui avaient fait grève, tenez-vous bien. Ils avaient fait grève et qu'avait répondu le MEDEF de l'époque ? On discutera avec eux quand ils arrêteront de faire grève. Je me suis dit, je marche sur la tête. Que le MEDEF ose répondre que les travailleurs sans papier illicites arrêtent de faire grève. Donc je me suis mis avec la CGT qui ne comprenait pas ça. Et la situation en France est beaucoup plus grave que ce qu'on imagine. En l'occurrence, vous employeur, moi employeur, je recrute pour un type à 4h du matin, etc. il a des faux papiers. Je ne suis pas tenue en tant qu'employeur de vérifier la qualité de ses papiers. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui ferment les yeux, il a des papiers. Ses salariés sont déclarés. Il paye, le salarié lui-même est déclaré. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on récompense ce système, car au bout de 3 ans, c'était 5 avant je crois, au bout de 3 ans, quand vous déclarez que vous avez travaillé, que vous avez été déclaré, vous avez automatiquement des papiers. Ça veut dire qu'on encourage, des gens qui sont de façon illégale sur le territoire français, on les encourage à ça.
Et ça arrange, qui au premier chef? Qui ne paye pas les cotisations?
Je ne cherche pas. Et paye
Valérie,
les cotisations.
Mais on ne s'éloigne pas du sujet. À cause de fumier, parce que pardon, mais ce type est un fumier, l'assassin de Rambouillet, le terroriste islamiste de Rambouillet, qui s'attaque à une femme policière à l'arme blanche, qui l'égorge en pleine journée.
Bah, il est coursier. Voilà,
ce type est la lie de l'humanité. Mais il représente un courant qui s'appelle l'islam politique. Ouais. Et donc, le but de l'islam politique est de diviser notre pays. Moi, je vois d'un côté les gens qui préfèrent s'attaquer au professeur de trappe, le professeur Le Maire, qui se taisent une policière est assassinée. Et ces gens-là sont des collaborateurs de l'islamisme politique. Les gens qui préfèrent toujours s'attaquer aux laïcs, qui préfèrent s'attaquer aux professeurs qui dénoncent une situation, qui préfèrent s'attaquer à la police plutôt que s'attaquer aux islamistes. Et je pense qu'il faut taper très dur les islamistes, beaucoup plus dur qu'on ne le fait aujourd'hui, mais je ne veux pas non plus qu'on fasse des raccourcis. Il y a des millions d'immigrés dans ce pays qui se comportent parfaitement normalement.
Mais évidemment, on le sait.
Et même souvent, qui sont les premières victimes et les premiers remparts contre l'islamisme politique. Parce que vous croyez quoi? Ce sont évidemment des gamines étrangères, souvent, qui sont victimes de la polygamie, de l'excision, du voile au plus jeune âge, etc. Et donc, il faut arrêter de tout mélanger, de tout mettre dans le même panier. Moi, ce n'est pas à cause du salaud de Rambouillet que je laisserai qu'on s'attaque au boulanger qui fait la grève de la faim par geste de solidarité pour son commis.
Attendez, Mehdi, on va faire tourner la parole.
Luc, quand vous faites ça, je vous le dis très sincèrement entre nous, et on se parle franchement sur cette radio, vous donnez une grande victoire aux islamistes. C'est exactement ce qu'ils veulent.
Je ne suis pas du tout d'accord, monsieur. Je vais vous dire une chose, je ne peux pas être moins proche des islamistes qu'on puisse l'être. Je suis pied noir, on a subi une certaine violence, et donc on connaît cela. Le problème, il n'est pas là, monsieur. Le problème, c'est que, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est une guerre. Dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Et puis voilà. Quand Cédric Herrou fait rentrer des centaines de clandestins, je lui ai dit, pas en face parce que j'étais à la radio, je lui ai dit qu'il serait comptable de la moindre exaction causée par ces gens. Il faut responsabiliser les gens, monsieur.
Vous n'avez pas de Français qui tuent leurs femmes, monsieur.
Je suis d'accord, monsieur. Luc,
vous n'avez pas de voisins parfaitement français, des bons Français, purs souches, des bons Gaulois qui commettent des délits.
Il faut les sanctionner aussi.
Ils commettent des crimes. Vous n'en voyez pas qu'ils commettent des crimes. On ne parle pas de la même chose.
L'autre jour, je discutais avec une amie qui me disait exactement la même chose que vous et qui me prenait l'exemple de Dutroux ou de Fourmiret. Ça n'a rien à voir, monsieur.
Il n'y a pas de projet politique derrière Dutroux et Fourmiret. C'est là qu'est le problème. Et qu'aujourd'hui, l'islam politique, encore une fois, qui a armé ces gens, pour amener une petite précision.
Par rapport aux termes qui ont été utilisés tout à l'heure, l'islam politique, l'islamophobie, etc. Ça fait très très longtemps que des personnalités comme Caroline Forest nous indiquent que derrière l'utilisation de ce terme-là, il y a une réflexion, il y a une stratégie politique. Voilà. Pour autant, par rapport aux actes terroristes qui ont lieu, des personnes qui utilisent ces termes-là, l'islamophobie, ceux qui se reconnaissent dans l'islam politique, qui l'affichent ouvertement, on ne peut pas les catégoriser immédiatement comme des terroristes, etc. Parce que la sournoiserie de l'islam politique, elle est là. C'est-à-dire qu'elle traite, elle met en place une zone de gris, une zone de flou entre les deux. Elle avance des termes, des pseudo-soucis de société dans des pays extérieurs comme les problèmes des musulmans en France, pour amener petit à petit les personnes dans l'islam politique et ensuite au sein de l'islam politique, qui est complètement divers, il y a différents courants, etc. Il y en a certains qui font le passage très rapide au terrorisme. Et d'ailleurs, ce passage, il est de plus en plus court. C'est ça le vrai souci aussi par rapport aux signaux faibles. Avant, ça prenait 2-3 ans. Maintenant, ça se fait très rapidement sur les réseaux sociaux. Et juste pour terminer, par rapport au lien mécanique entre l'immigration et le terrorisme, il n'est évidemment, il ne faut absolument pas tomber là-dedans. Même si il n'y a pas de tabou, il ne faut pas être naïf non plus par rapport à ce qui s'est passé, à ce qu'on vit depuis quelques temps. Il y a 3/4 des actes terroristes en France qui sont faits essentiellement par des personnes de nationalité française. Mais pour autant, il y a un sujet que l'extrême droite agite souvent, c'est que la nationalité française ne suffit pas, ils regardent les origines, etc., etc. Bon, sans tomber dans la naïveté, il faut également dire cela, prendre le sujet dans sa complexité, ne pas trop avancer avec du prêt-à-penser et des solutions trop radicales par rapport
Michel
à ça.
Michel Taube.
Plusieurs choses. Je suis désolé, l'islam politique, l'islam politique, surtout dans un pays laïque comme la France, prépare le terreau d'actes terroristes. Je suis désolé. L'islam politique est déjà en soi un problème dans un pays où il n'y a pas à y avoir de religion qui soit politique.
Mais oui, Michel,
ça n'est pas possible. Donc je suis désolé, je le répète, les terroristes ne sont plus des loups isolés. Parce que tous vont chercher sur Internet et les réseaux sociaux de quoi nourrir leur haine. Donc le bras armé qui les prépare, qui arme leurs tirs, qui arme leurs couteaux pour égorger, ce sont les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un mélange de propos islamistes, politiques et d'un climat français, strictement français, où vous avez des Français. Et c'est vous qui avez dit Mediapart et d'autres, c'est pas moi qui l'ai dit, qui entretiennent l'illusion d'une islamophobie, l'illusion que les Français de confession musulmane ou de couleur noire seraient en danger dans notre pays, ce qui est complètement faux. Et c'est cela qui prépare, premièrement. Deuxièmement, sur l'immigration. Pour moi, je n'ai jamais pensé et je ne penserai jamais que l'immigration est en soi un problème pour la France.
Illégale.
La France
illégale.
La France est une terre d'immigration. Elle l'a été, elle l'est et elle le sera. Le problème, ce n'est pas l'immigration. D'autant moins que, effectivement, aujourd'hui, vous avez plus de Français de nationalité qui commettent des crimes ou des délits au nom de l'islam politique que des étrangers.
Mais oui,
pour parler de l'immigration, c'est se tromper d'époque. C'était peut-être le cas il y a 10 ou 20 ans.
Michel,
mais aujourd'hui,
ça dépend quelle immigration. Une immigration totalement illégale. Qu'est-ce qu'on fait avec que des illégaux partout?
Le problème, ce n'est pas l'immigration. Le problème, ce sont les personnes qui, parmi les immigrés des Français, se radicalisent ou peuvent se radicaliser. Et je pense effectivement que tant que l'État...
On ne peut pas laisser tout le monde rentrer sans papier illégalement,
Sophie, arrêtez avec ça.
Comment arrêter avec ça?
Non, mais il n'y a pas de... Tous les pays ont le droit de maîtriser ces flux migratoires.
Laissez terminer, ont le droit de maîtriser ces flux migratoires.
D'ailleurs, les pays du Maghreb aussi...
Tant que l'État ne sera pas en mesure de filtrer les personnes étrangères qui pourrait se radicaliser.
Mais on n'en sait rien. Comment vous voulez faire ça?
Dans ce cas-là, il faut freiner. Non, mais attendez, je ne prends qu'un exemple. Les fichiers S. Les 11 000 fichiers S pour radicalisation, il y en a plus de 4 000 qui sont étrangers. Effectivement, ce n'est pas poser le problème de l'immigration en soi que de dire, je suis désolé, maximum pour expulser ces 4 000 étrangers fichiers S pour radicalisation, parce que nous n'avons pas les moyens de les surveiller suffisamment et il faut faire pression sur leur pays d'origine, pression diplomatique, pression économique, pour qu'ils les reprennent chez eux.
Bien sûr.
Voilà ce qu'il faudrait faire.
Il y en a eu 575 qui ont été expulsés, et dont 300 lors de la dernière année simplement.
Oui, après, Valérie, moi, je veux juste quand même rebondir sur la question de l'immigration. C'est-à-dire que, Sophie, pardon, moi, je veux bien que les pompiers se fassent pyromanes. Mais enfin, vous représentez un mouvement patronal, quand même. Qui sont les principaux bénéficiaires de l'immigration illégale dans ce pays et qui l'alimentent depuis des décennies? Ce sont quand même les patrons. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Quel secteur? Le BTP? On parle du BTP?
On peut en parler, honnêtement,
je travaille dans le BTP.
Honnêtement, les entrepreneurs du bâtiment n'ont aucun intérêt à faire travailler énormément
ils cherchent des gens. Est-ce que je peux répondre quand même directement à ta question? Je voudrais répondre 2 minutes.
Pas tous en même temps.
Mais pendant des décennies, ça a été quand même un bon moyen de faire pression sur les salaires. À un moment donné, il faut arrêter.
Alors, je voudrais répondre à ça parce que c'est particulièrement de mauvaise foi. Je suis un mouvement qui s'appelle Éthique. Nous cherchons indéfiniment, au contraire, à trouver d'une part des salariés français qui veulent bien faire des tâches qui ne sont pas occupées alors qu'il y a du chômage. Et effectivement, se lever tôt, souvent le bâtiment, souvent des professions comme les éboueurs, etc., quoi qu'ils ont très bien révalorisé les salaires. Donc oui, on ne cherche pas ça. On cherche des Français qui assument ce job. Ensuite, vous ne pouvez pas tout mélanger. Quand je dis évidemment que l'immigration était aussi une richesse pour la France. Je parle de cette immigration illégale où on entretient des gens qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas loger, qui font des ghettos, mais qui n'ont pas de quoi bouffer et qui se radicalisent. Ce n'est pas la même chose. Je finis. Ce n'est pas la même type d'immigration qu'une immigration comme on peut faire aux États-Unis. Je suis d'accord pour que s'il y a un boulot à donner, on donne une carte verte, il a le droit de rester en France le temps de ce boulot. Ouais, je veux dire qu'il y a quand même toutes les solutions qui existent. On est le seul pays passoire.
On
les renvoie pas, ouais. Et on n'a pas le droit de les employer, mais on les emploie quand même. C'est une catastrophe.
Allez, on marque une pause. Certains auditeurs, un auditeur me dit allez voir dans les champs en ce moment ce qui se passe dans le sud de la France.
Peut-être.
Pour cueillir et ramasser. Ce ne sont que des travailleurs.
Un peu d'étudiants quand même.
Illégaux. Non, il n'y a pas beaucoup d'étudiants en ce moment qui sont dans les champs. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on est ensemble encore pendant une dizaine de minutes. Rentrée des classes, est-ce bien raisonnable? On vous pose la question comme ça. 3 semaines de fermeture. Le gouvernement a décidé de maintenir son calendrier avec cette rentrée des classes pour les écoliers en primaire et en maternelle. Les collégiens et les lycéens attendront eux, jusqu'au 3 mai. C'est essentiel de faire revenir les enfants à l'école, dit le ministre de la Santé. Je lis l'actus. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, l'infectiologue Éric Combes estime d'un point de vue sanitaire que le retour en classe est prématuré. C'est vrai qu'on est toujours sur un plateau très élevé. Mieux vaut 1% des classes formées que 100% des écoles fermées. Je vous pose la question. Le virus circule aussi parmi les enfants. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va y avoir des déploiements de tests salivaires, des autotests pour les plus de 15 ans. J'ai hâte de voir comment ça va se passer dans les écoles.
Je peux déjà vous dire que ça ne va pas se passer parce qu'on a très peu de tests salivaires. Le personnel est très absent parce que le personnel des écoles n'a pas été vacciné en nombre suffisant. Donc, ils sont très, très absents. Les écoles ne savent pas le faire. Ce sont des boîtes privées qui sont mises à les aider grâce au ciel à pouvoir aider avec des infirmières pour les tests, les résultats, etc. Les tests antigéniques, on rêve, c'est un par enfant par semaine et on n'a pas le droit dans les entreprises d'en acheter. Donc, ce gouvernement a une absence de confiance totale dans tout ce qui est privé et veut que ce soit fait par le public qui n'y arrive pas. Donc je pense que ça va être mal fait. D'un autre côté, je ne suis pas capable de répondre à cette question. Faut-il pas? Je suis très troublée parce que empêcher les enfants d'aller en classe, c'est aussi dramatique pour les parents, pour les entreprises. Et donc, je ne sais pas.
Alors, Michel, vous avez une petite fille qui est en âge qui est retournée à l'école ce matin.
La rentrée s'est bien passée?
Oui.
Bah écoutez, je vais pas vous mentir, on n'est pas allé à l'école ce matin.
Ah bah voilà.
Pourquoi?
Je suis un peu gêné.
Oui, d'accord, mais il y a d'autres.
Elle a quel âge?
Non, mais il y a d'autres. Il y a peu. Enfin voilà, il y a d'autres.
Non, mais elle n'y a pas été pour les raisons de ce débat. C'est que elle a été testée vendredi matin et malheureusement elle a le Covid.
Aïe. Elle a quel âge?
Prend rétablissement elle.
Contact. Et je dois dire d'ailleurs pour avoir beaucoup critiqué en son temps l'action des pouvoirs publics en termes de suivi de ce genre de situation, que depuis 48 heures, l'assurance maladie, il y a eu un suivi très rapproché, et apparemment, de ce côté-là, ça fonctionne. L'information fonctionne, oui. Même si elle ne fonctionne pas tout à fait, parce que un principal animateur du centre de loisirs où était ma fille, c'est moi qui l'ai informé dimanche soir, oui. Alors qu'ils en étaient informés au niveau de l'assurance maladie 24 heures avant. Oui. Donc, c'est que finalement, l'information ne circule pas si bien que cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on est sans arrêt dans des injonctions paradoxales qui sont insupportables. Mmh. Insupportables. Samedi, avant d'être informé de cette situation, nous nous sommes promenés dans Paris, nous sommes passés devant une médiathèque, on a vu une file d'attente devant la médiathèque, et ma fille me demande, mais que font les personnes ici ? Donc, savez-vous, chers auditeurs de Sud Radio, que dans Paris, les médiathèques sont ouvertes. Les médiathèques sont ouvertes. Les musées sont fermés.
Oui.
Les médiathèques sont ouvertes. Alors, comment expliquer cela à un enfant ? On est dans des contradictions constantes. Ouais. Donc, effectivement, Valérie, on ne peut pas répondre à votre question. Et ceux qui peuvent le moins répondre, vous citez Eric Combes, ceux qui peuvent le moins répondre, ce sont les médecins. Parce que les médecins ne sont pas d'accord entre eux.
Je vais peut-être vous mettre d'accord. J'ai un médecin qui m'envoie taux d'occupation en réa par rapport à la capacité habituelle 158%, taux d'occupation en réa par rapport à une capacité en temps de crise 93%, taux de Covid en réa 76%, âge moyen 60%, minimum 38 ans, maximum 72 ans, variant identifié 55% britannique et sud-africain et brésilien. Pour l'instant, la différence n'est pas encore faite, mais le sud-africain circule à 45%. Donc voilà, c'est la réalité d'un médecin réanimateur.
Sur la France entière, ça ?
Non, dans une région, dans l'Est.
Il y a un sujet que le président de la République, pour le coup, a bien. Bah, d'ailleurs, on voit la petite fille
Médura,
pour les éditeurs qui suivent ça sur le live. On voit la petite fille de Michel qui vient de passer une petite tête. bon, on lui souhaite un très bon rétablissement, évidemment. Pour le coup, il y a une situation qui est inextricable pour le président de la République, c'est qu'il a voulu confiner. Enfin, il ne voulait pas confiner, donc il a été obligé de le faire après tous les autres pays. Bon, avec une espèce de mouliner des bras comme ça, très régalien, très 5e République, qui n'a pas fonctionné. Donc un pari raté. Là où, en revanche, je lui fais crédit d'être extrêmement courageux dans son discours, c'est de dire qu'il faut que les enfants retournent à l'école. Et pas seulement pour des raisons liées au patronat ou liées à l'économie, etc. Mais parce qu'il y a aussi il y a une génération Covid qui est soumise à des rythmes Covid maintenant depuis un an et demi, et qui d'ailleurs sera peut-être soumise dans les 15 ans qui viennent à d'autres pandémies. Et ça, on ne le sait pas encore. Mmh. Et donc, une génération qui est une génération, à ce stade, qui est potentiellement une génération sacrifiée en termes scolaires. Là où, en revanche, moi, je suis un peu en colère, et pas que contre le gouvernement, mais collectivement contre nous, j'ai envie de dire, c'est qu'on aurait pu lisser la courbe en faisant en sorte qu'il y ait moins d'enfants dans les écoles, par exemple, aujourd'hui, si on avait fait preuve d'un peu de courage politique en disant les enfants iront à l'école sur des périodes qui sont des périodes inhabituelles, c'est-à-dire tout bêtement, pendant les vacances, le soir, le matin très tôt, le mercredi, pendant les week-ends, on rattrapera pour les enfants qui sont les plus en difficulté, mais aussi pour les enfants qui sont dans le rythme habituel, voire pour les enfants qui sont en avance, mais qui n'ont pas eu les cours qu'ils auraient dû avoir jusqu'à maintenant et qui leur manqueront. Et donc, on a un vrai sujet quand même, c'est qu'on a fait preuve, et là encore, je me retrouve plus libéral que Sophie, c'est un paradoxe, mais on a fait preuve d'une très grande rigidité administrative, là où il fallait de la souplesse. C'est-à-dire qu'il fallait dire, bon, on est face à un événement qui est un événement mondial que personne n'avait prévu, eh bien, on est souple. Mmh. Et donc, on envisage, par exemple, que les classes soient moins remplies, mais qu'elles soient remplies aussi en juillet et en août, par petits groupes. Et là, on avait à la fois une solution éducative et une solution sanitaire. Bon, en fait, or, personne n'a voulu étudier ce genre de solution.
Oui, mais là, la question, c'est une question politique. Ouais, ce que dit Eric Combe aussi, c'est je pense qu'il y avait d'autres choses qui ont porté cette décision, des phénomènes qui ne relèvent pas de la médecine. On suit les décisions politiques. Les chiffres ne sont pas encourageants. C'est à peine, on a à peine commencé à redescendre dans certains endroits et dire qu'on se relâche déjà, les précautions.
Deux sujets là-dessus, gouverner, c'est choisir, évidemment. Le président de la République a fait des choix de ne pas confiner, parce que ce n'était pas un confinement, malgré tout, il faut l'indiquer. Tous ces choix, ils sont basés sur un équilibre qui peut être critiquable, évidemment. Donc, ceux qui sont dans l'opposition et les autres partis politiques auraient pu faire d'autres choix. L'objectif du débat, c'est d'avoir différentes visions, mais c'est d'avoir un équilibre entre l'acceptabilité sociale des décisions, entre la vie économique du pays et, on va dire, la santé psychologique de nos concitoyens, en particulier de la jeunesse. Et c'est pour ça que le fait de décaler un petit peu les vacances courant ce mois-ci a eu un impact quand même considérable, parce que ça a chamboulé beaucoup de planning, beaucoup de calendriers en termes au niveau des entreprises, ça a posé quelques petits blocages. Les mesures de freinage, plutôt que le confinement qui ont été prises durant ce mois d'avril, ont eu malgré tout un effet. Donc certains préféraient peut-être des confinements préventifs, parler de scandale d'État alors qu'on n'avait pas les données chiffrées devant nous. Donc notre volonté, c'est d'espérer que cette rentrée scolaire se passe bien, parce que la guerre qu'on mène, parce que c'est également une guerre contre ce virus, c'est une guerre de mouvement, on doit s'adapter heure par heure, jour par jour, justement aux indications que les médecins, ce que vous avez remonté...
C'est de la politique qu'on fait. Non, c'est mais
il y a les deux. On peut pas être uniquement dans une approche scientifique purement. On confine, on regarde comment évolue la. Parce que d'un côté, on a la psychologie et la santé mentale de nos concitoyens et la vie économique de notre pays. Parce que on peut pas éternellement injecter du cash dans l'économie. Il faut qu'on prépare également
les restaurants et les commerces en ce moment. Les commerces, il faut quand même le dire, ça va avoir des conséquences terribles. C'est sans arrêt, ces fermetures, ils ne recommencent pas. Il y a quand même un drame économique. Je sais que c'est toujours inhumain, l'économie. Évidemment. Mais là, c'est la vie des hommes. Je pense que le gouvernement, franchement, autant il communique mal, autant il y a des injonctions contradictoires, autant je suis sévère, autant je pense que c'est terriblement difficile de juger, de faire le bon choix au bon moment, surtout lorsqu'on est bloqué par une infrastructure qui fait que tout met un temps infini à se décider.
Mais surtout, la seule solution, c'est la vaccination. Il faut qu'on avance de façon beaucoup plus
forte
pour la vaccination.
Oui, avec tout le bin qu'ils ont fait sur l'AstraZeneca, on ne sait plus quoi en faire, ils sont pratiquement périmés maintenant.
Allez, merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.
Bonne journée. Merci beaucoup.
À demain, merci.